Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Laurent Joly pour son livre « Naissance de l'action française » qui est paru aux éditions Grasset. Laurent Joly, vous êtes historien, membre de la commission Histoire de l'antisémitisme et de la Shoah de la FMS, Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce qui me donne l'occasion de rappeler que le champ de cette commission, dédié aux chercheurs, ne concerne pas seulement la Shoah, mais aussi l'histoire de l'antisémitisme. Alors avec ce livre, vous revenez aux origines de l'action française, en pleine affaire Dreyfus, des origines peu connues ou oubliées au profit de ce qu'on pourrait appeler une légende, un récit héroïque de ce mouvement royaliste d'extrême droite qui fut le plus important du XXe siècle et qui continue d'une certaine manière d'irriguer la pensée de l'extrême droite actuelle, mais nous y reviendrons avec vous. Pour commencer, Laurent Joly, on connaît vos travaux sur Vichy. Vous avez également dirigé en 2012 chez Perrin « La délation dans la France des années noires ». Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce moment précis de l'histoire de l'extrême droite en France et de l'action française en particulier ?
Alors bonjour, donc, je suis ravi d'être dans l'émission effectivement de la Fondation puisque je fais partie depuis 6 ans et mon mandat va arriver à terme de la commission Histoire et antisémitisme de la Histoire de l'antisémitisme et de la Shoah, donc effectivement, c'est pas que la Shoah. Ce qui m'a amené à travailler là-dessus, tout remonte en quelque sorte à un personnage, c'est pas Xavier Vallat, qui est le premier commissaire général aux questions juives de Vichy, sur lequel j'avais fait, lorsque j'étais étudiant, on dit maintenant master, j'avais fait ma maîtrise d'histoire sur Xavier Vallat, et j'avais découvert que Xavier Vallat, donc il est né en 1891, il était tout petit garçon pendant l'affaire Dreyfus, et il a commencé à lire la presse catholique, et l'action française très jeune. Et donc j'avais dépouillé l'action française la fin des années 1900, début des années 1910, et j'ai découvert là, ce qu'on ignorait, c'est que, enfin en gros j'ai découvert quand est-ce que Maurras avait théorisé l'antisémitisme d'État pour la première fois. Donc c'est un sujet qui m'a intéressé, que j'ai gardé de côté, à côté de ma thèse, et après ma thèse, on y revient toujours à la Fondation, j'ai fait un post-doctorat sur l'action française. Là-bas, c'était l'antisémitisme de l'action française. Et c'est vrai que à mesure que j'avançais, je me suis rapproché des origines pour pratiquement plus traiter que ça, au-delà de la question de l'antisémitisme, pour comprendre vraiment ce qui me semblait un moment fondamental de l'histoire politique française. C'est ce moment où, en quelque sorte, les royalistes, donc la tradition contre-révolutionnaire, découvrent la nation et se convertissent au nationalisme. Et c'est Maurras qui est vraiment, d'un point de vue théorique, l'agent opérateur de cette fusion que j'avais retrouvé à Vichy, puisque Vallat, c'est un royaliste converti à l'autoritarisme. Donc voilà, c'était ces questions-là qui me... Je voulais en gros connaître, enfin, c'est un peu simpliste, mais un peu les origines intellectuelles de Vichy. C'était ça l'idée de départ.
D'accord. Pour juste peut-être... De manière pratique, pour revenir à ses origines, analyser donc la genèse de ce mouvement et de ses membres fondateurs, vous avez travaillé sur de nombreux fonds d'archives, c'est ça, il y a notamment le fonds Charles Maurras, mais vous avez aussi dépouillé la presse de l'époque, je crois, autour de 1898, et vous avez eu accès également à des correspondances privées.
Tout à fait. Alors, il y avait une légende, vous l'avez rappelé très opportunément, il y avait une légende un peu, on va dire, installée. En gros, moi-même, je suis tombé un peu dans le piège. Mes premiers articles sur l'action française, je commençais toujours comme ça. L'action française, c'était un groupuscule nationaliste que Maurras a converti un à un. Alors, ils sont dans un grand personnage qui convertit comme ça un à un les adeptes de l'action française. C'est pas du tout ça qui s'est passé. D'abord, l'action française, on ignorait vraiment quelles étaient les origines tout simplement institutionnelles. C'est quoi l'action française à l'origine? Donc, on savait que ça venait de la Ligue de la Patrie française. Donc la Ligue de la Patrie française, c'est la grande ligue anti-Dreyfusarde qui a été créée en 1899. Mais l'action française, ce n'est pas simplement une dissidence de la Ligue de la Patrie française, c'est un mouvement tout petit, microscopique, animé par un individu, Henri Vaugeois, qui, je l'ai découvert, est un raté total. Et donc j'ai notamment découvert son dossier, c'est un enseignant qui a raté l'agrégation à 8 reprises, et qui a débuté dans les milieux républicains, c'est un radical. Et
Plus que républicain, enfin, c'est curieux de voir les trajets. Je crois qu'il il croise celui qui animera ensuite le colloque de Cerisy, des choses comme ça.
Oui, c'est un proche de Desjardins.
De Desjardins,
donc,
voilà.
Il est à l'Union pour l'action morale, et qui est en gros une officine intellectuelle républicaine. Ce sont des philosophes de gauche, on va dire. Ouais. Et il est totalement dans la ligne. Sauf qu'on voit un moment de rupture dans sa carrière, sa jeune carrière universitaire, c'est qu'il a donc raté l'agrégation et qu'il s'aigrit, il est prof à Coulommiers. Et on voit en 1896-1897, c'est un enseignant aigri qui est un peu, on va dire, en guerre avec l'institution. Et il rompt avec l'Union pour l'action morale au moment où il n'a plus vraiment d'espoir de... Voilà, Il faut savoir aussi que l'Union pour l'Action Morale, c'est une officine, certes républicaine, mais c'est aussi très universitaire. Ils sont tous normaliens, ils sont tous agrégés. Lui, il n'est rien de tout ça, bourgeois.
D'où sa frustration.
Et d'où une frustration. Alors, évidemment, ce serait trop simple de tout expliquer par la frustration, parce que sinon, tous ceux qui ont raté l'agrégation seraient devenus anti-Dreyfusards et antisémites. Donc, chez Bourgeois, il y a aussi une personnalité, on va dire, extrêmement influençable. C'est quelqu'un de très nerveux, qui a... Voilà, c'est quelqu'un de fragile psychologiquement. C'est pour ça que j'ai fait, parfois, dans des interviews après la sortie du livre, des parallèles qui ont été un peu mal perçus, mais c'est parce que c'était le moment des attentats, et c'est vrai que c'est le profil de Vaugeois, de la personne qu'un Maurras, qui est un convertisseur, qui est quelqu'un qui est animé, peut facilement convertir et ramener à ses idées. Voilà. Mais en fait, dans ce petit groupuscule d'Action française que crée Vaugeois en 1899, donc, au moment où c'est là aussi, on connaissait mal les origines. C'est quoi les origines de l'Action française ? On est en juin 1899. Donc, c'est le moment où le procès Dreyfus va avoir lieu à Rennes. Enfin, la Cour de cassation, plutôt, a annulé le verdict de 1894, a ordonné un nouveau procès. Donc, les anti-Dreyfusards sont sur le pied de guerre. Ils veulent presque un coup d'État. Enfin, ils veulent un grand homme. Il y a aussi un grand officier qui s'appelle Marchand, qu'on a un peu oublié, qui était un peu le héros des anti-Dreyfusards. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle le nationalisme césarien. Tous ces excités de l'anti-dreyfusisme, ils attendent le grand homme qui va sauver la France. Et c'est ça l'état d'esprit de Vaugeois. Il est proche de Desroulèdes, donc fondateur de la Ligue de la Patrie française. Il y a les agitateurs antisémites qui viennent à cette première réunion d'Action française. Donc voilà, c'est ça le terreau d'origine de l'Action française. Et Maurras va les ramener au royalisme. Pourquoi ? Parce que en fait, ils n'ont aucun avenir très rapidement. Les excités, en quelque sorte, de l'anti-dreyfusisme, après le procès de Rennes, ils se calment et ils rejoignent, on va dire, les milieux conservateurs traditionnels. Sauf que Vaugeois, lui, il était marginal au sein de l'Union pour l'Action morale, auprès de Desjardins. Et il est aussi très marginal au sein de la Ligue de la Patrie française, toujours pour les mêmes raisons. C'est qu'il n'est pas normalien, il n'est pas agrégé. Et ceux qui dirigent la Ligue pour la Patrie française, c'est Jules Lemaître, c'est Siveton, ce sont des universitaires, des agrégés. Il ne l'est pas, il a une position mineure. Et donc voilà, Maurras arrive à l'amener vers le royalisme, où il y a encore une vraie force sociale, il y a une presse. Il faut savoir que l'Action française, à l'origine, 1899, le projet, ce n'est pas encore une ligue, ce n'est pas encore un mouvement politique, ils veulent créer un journal. Bourgeois et ses amis rêvent de créer un journal. Ils n'y arrivent pas. Or, des journaux quotidiens, il y en a plein, enfin, il y en a encore deux ou trois chez les royalistes. Et c'est là que Bourgeois va réussir à se faire une place dans le monde nationaliste royaliste. Il est...
Alors peut-être juste avant d'arriver à... Parce qu'on a l'impression que, oui, la naissance de l'Action française se fait un peu au forceps. Et puis il y a quand même un autre personnage important, c'est Barrès.
Alors voilà, il était ignoré dans
Qui va penser le nationalisme, c'est ça ?
Alors au début, l'Action française, c'est quoi ? Donc, je vous dis, c'est presque rien. Ce sont quelques agités au sein de la Ligue de la Patrie française qui disent qu'il faut aller plus loin, il faut, alors il y a déjà cette idée qui va être structurante chez l'Action française et qui permet d'expliquer pourquoi on a cheminé vers le royalisme, c'est que Vaugeois et ses amis sont en guerre contre les idéaux de 89. Les idées libérales, l'individualisme, c'est la mort de la France.
Les droits de l'homme.
Les droits de l'homme et la démocratie. Maurice Barrès, au sein de la Ligue de la Patrie française, Barrès à l'époque a 37 ans, c'est un romancier déjà très connu, il a été député boulangiste. Et Barrès est surtout le fondateur de cette idée, le nationalisme. Il a même forgé le vocable, le nationalisme. Or, au moment de l'affaire Dreyfus, le nationalisme, c'est une étiquette qui devient commune dans le champ politique. Et Barrès, en quelque sorte, je simplifie un petit peu, mais il ne veut pas que ça lui échappe. Donc, il est très soucieux de parrainer toutes les petites structures. Barrès n'a que mépris pour Henri Vaugeois. Mais il veut quand même parrainer toutes les structures qui naissent dans chez les anti-Dreyfusards, chez les excités en quelque sorte, même les pires.
Qui pourraient promouvoir en fait son concept.
Qui se disent, ils écrivent tous, il faut voir ce qu'est Barrès à l'époque. Barrès est un véritable mentor pour la jeunesse, plus que la jeunesse nationaliste. Léon Blum est un disciple de Barrès. Donc il a une véritable aura, et les jeunes nationalistes de la génération de Vaugeois, enfin Vaugeois il a que 2 ans de moins que Barrès, ils ont pratiquement le même âge, il a 34-35 ans Vaugeois, mais des gens plus jeunes comme Maurice Pujot qui a 26-27 ans, sont des admirateurs de Barrès et tous lui écrivent. Donc l'Action française c'est pas la seule de ces organisations, de ces micro-organisations qui demandent le parrainage de Barrès. Donc au début l'Action française est... en quelque sorte, intellectuellement, la chose de Barrès. Barrès accepte de parrainer, de présider des réunions, et le journal, le bimensuel L'Action française, qui est né en 1899, il est au service de l'œuvre de Barrès. Barrès, à l'époque, il a cette grande idée qui est de faire le roman de l'énergie nationale. Il veut créer une œuvre qui serait, pour le camp nationaliste, aussi important que l'œuvre de Victor Hugo pour les Républicains. Et donc, voilà, l'Action française se met au service de... fait l'apologie, la promotion du roman de l'énergie nationale, donc le premier volume, Les Déracinés, et le second, L'appel aux soldats, en 1900.
C'est en 1901, je crois, que Maurras réussit à convaincre, donc définitivement, Vaugeois qui annonce sa conversion, c'est le terme que vous employez. C'est assez incroyable, donc cette conversion au nationalisme intégral. Barrès, à partir de ce moment-là, va se retirer de la vie politique, en tout cas quelques mois plus tard. C'est une victoire pour Maurras, donc qui a réussi à faire de l'Action française un mouvement royaliste. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement à ce moment-là, en 1900?
Ça ne signifie pas grand-chose. L'Action française est connue dans les milieux du nationalisme ultra. Et dans le livre, j'évoque cette espèce de rivalité qu'il y a entre Barrès et Maurras pour mettre la main sur l'Action française, parce que l'Action française, dans le milieu nationaliste, elle incarne une forme de ce qu'on appelle de laboratoire d'idées. Donc il y a une revue, c'est la seule à l'origine, c'est une revue de prestige, entre guillemets. On dit prestige parce qu'il y a peu d'adhérents, donc forcément ils sont prestigieux. Donc c'est une revue qui se veut une revue d'élite. Donc il y a 500 adhérents à peu près. Donc voilà, c'est ça. Il y a un enjeu intellectuel, mais surtout... on est à un moment où le Parti royaliste est pratiquement... Parti royaliste, c'est pas rien au début de la Troisième République, aux élections de 1889, aux élections de 1893, vous avez encore... le Parti royaliste, c'est encore entre 15 et 20% de l'électorat français. Seulement...
Après l'épisode du boulangisme, ça continue quand même.
Alors voilà, le problème, c'est qu'il y a le ralliement, donc le ralliement, c'est-à-dire que le Vatican appelle les catholiques à se rallier à la République française au début des années 1890, et là, on a vraiment un effondrement du Parti royaliste. Et le Parti royaliste fait le choix de l'expédient, c'est-à-dire, au moment du boulangisme, soutenir Boulanger, c'est-à-dire une sorte de renversement possible de la République par un homme qu'on pourrait manipuler, c'est l'idée du boulangisme, et les royalistes font la même, on va dire la même erreur, mais le même calcul, au moment de l'affaire Dreyfus, en jouant la carte de l'antisémitisme, en disant les antisémites, donc Jules Guérin, Édouard Drumont, Jules Guérin qui est le principal agitateur antisémite et financé par le Parti royaliste, vont nous permettre de renverser la République. C'est un calcul du duc d'Orléans et des durs qui sont autour de lui, qui est un très mauvais calcul, parce qu'il coupe le Parti royaliste de on va dire, l'opinion modérée. Et l'idée de Maurras, c'est de prendre la main sur le Parti royaliste avec cette idée de rupture totale avec la démocratie. Puisque, a priori, il n'y a pas forcément d'opposition entre... on peut être partisan d'une monarchie constitutionnelle, avec des élections. Non, Maurras coupe le Parti royaliste de cette tradition-là et va en faire, avec les années, un mouvement d'extrême droite. Et c'est cette fusion dont je vous parlais en début d'émission, de nationalisme et de monarchie sur un programme qui est purement antidémocratique. Il faut faire un coup d'État, il faut renverser la République pour revenir à un ordre. C'est-à-dire que Maurras veut annuler toute la tradition, l'orléanisme, etc., pour revenir à une lecture de la monarchie qui est l'ultracisme, qui est celle du début du XIXe siècle.
C'est-à-dire, en quelque
sorte. Aucune concession avec l'héritage républicain. On revient à l'ordre traditionnel de la monarchie. Donc, l'héritage de 89 est totalement gommé.
Alors, dans votre livre, vous écrivez que l'action française est en quelque sorte, si j'ai bien compris, le point de jonction entre un royalisme classique, réactionnaire, catholique, voilà, et une extrême droite, finalement, telle qu'on la connaît au XXe siècle, c'est-à-dire nationaliste, plébéienne et xénophobe.
Oui, le royalisme et l'idée de nation ne convergent pas au début. Ces deux idées qui sont même antithétiques, parce que la nation, c'est la souveraineté populaire. Donc, les royalistes ne sont pas nationalistes. Ils le deviennent en partie au moment du boulangisme. C'est un ralliement minoritaire. Hein. La plupart des royalistes se tiennent à l'écart du boulangisme. Mais Maurras amène vraiment le parti royaliste vers les idées nationalistes. Il fait vraiment ce que René Raymond appelait une synthèse. Il fait vraiment une synthèse entre les idées contre-révolutionnaires et les thèmes les plus radicaux du nationalisme. Et cette fusion-là, c'est vraiment Maurras qui en est le principal théoricien et qui explique à la fois la mutation du royalisme, mais aussi sa liquidation. Parce que Maurras, dont la grande idée était de préserver l'idée de roi dans la France républicaine, cette idée sacrée pour lui, il en est aussi le liquidateur, parce que finalement, qui Maurras a attiré au sein de, il a réussi à mettre la main, d'un point de vue organisationnel, sur le parti royaliste. Mais la diffusion large des idées de Maurras dans les années 20 et les années 30, elle ne s'est pas faite sur les idées de roi. Elle s'est faite sur le versant négatif du nationalisme intégral, qui est la critique radicale des idées démocratiques. L'antisémitisme, la haine du parlementarisme, la haine de l'étranger, c'est ça qui a attiré le plus de disciples à Maurras. C'est pas l'idée traditionnelle du roi. Donc finalement, c'est un peu la conclusion du livre, Maurras est à la fois le mainteneur de l'idée du roi, mais il en est surtout le liquidateur, et pour l'essentiel, l'héritage de Maurras, l'héritage intellectuel. Et aujourd'hui, quand on parle de Maurras dans le champ politique, d'ailleurs, il suffit de voir, dès que vous avez une polémique sur un homme politique qui va, par exemple, dire Nadjad, le ministre de l'Éducation nationale, elle n'est pas vraiment française. Vous voyez, c'est ces idées. Quand on dit d'un juif ou d'un musulman, il n'est pas vraiment français, parce qu'il a une religion différente, parce qu'il a des origines différentes, on pense tout de suite à Maurras. Parce que Maurras a été vraiment l'inventeur de ça, c'est-à-dire de un Français. C'est un racisme intellectuel. Et Maurras a donné ses lettres de noblesse à ce racisme intellectuel dès la fin du XIXe siècle. On revient à Barrès, il est à La Cocarde. C'était un hebdomadaire, journal dirigé par Barrès. Et Maurras a inventé cette notion de métèque et cette notion qu'un naturalisé, qu'un Français naturalisé, n'est pas vraiment un Français. Que, en lui-même, ce sont les mots de Maurras, il y a une vie physique qui se continue. Donc voilà, il y a une fiction. Le français, c'est pas simplement des papiers, c'est autre chose. C'est une âme, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une race aussi. Donc vous voyez, il y a un racisme culturel auquel Maurras a donné ses lettres de noblesse. Et finalement, l'héritage de Maurras, il est vraiment là. Il a permis, dans les milieux intellectuels, de légitimer ce qui était avant des idées un peu malfamées. L'antisémitisme drumontien, de Drummond, c'était des milieux malfamés. Maurras a donné ses lettres de noblesse à ces idées.
Mais c'est ça qui est très surprenant. Vous écrivez à un moment, effectivement, comment l'action française va convaincre le prétendant, l'héritier prétendant Philippe VIII, c'est ça, le convaincre d'afficher des opinions antisémites à seul fin électoraliste. Enfin, c'est évidemment pas en l'occurrence électoraliste, mais en l'occurrence, c'est ça.
Rallier le peuple, parce que l'idée, quand même, d'attirer les gens, il faut être populaire. Et c'est pas une idée que Maurras a inventée. J'ai vu dans les archives du comte de Paris, dès 1800, au début des années 1890, 1895, 1896, vous avez des gens qui lui écrivent en lui disant « Mais il faut que vous dites que vous êtes antisémite, parce que si vous dites que vous êtes antisémite, vous aurez le peuple avec vous. Si vous parlez simplement du roi, le français, il est pas forcément l'ouvrier, il va pas être forcément pour le roi. Mais si vous lui dites que vous êtes contre le juif, là peut-être qu'il va vous écouter. » Des proches du comte du duc d'Orléans lui écrivent ça dans les années 90. L'idée de l'antisémitisme est une idée qui paraît subversive, qui paraît celle qui peut permettre de toucher le peuple. Et Maurras l'écrit notamment, j'ai trouvé une lettre dans les archives du Buffet qui dirige le bureau politique, le directeur du bureau politique du roi, il lui dit « L'antisémitisme, c'est ce qui permet de toucher au cœur, ce qui permet de toucher les gens ». Et voilà, il y a vraiment cette idée que gauche, droite, ça dépasse les clivages politiques et ça peut permettre de... Parce que derrière l'idée de l'antisémitisme, il n'y a pas simplement l'idée qu'on va pouvoir toucher le peuple en allant vers les bas instincts. C'est aussi que toucher le juif, c'est toucher les idéaux de 89. Donc c'est une arme. C'est aussi une arme contre les idées libérales. Donc vous voyez, c'est... Il y a à la fois la démagogie et il y a aussi la théorie. Si on veut dénoncer les idées de 89, eh ben on peut l'incarner en disant voilà, le juif n'est pas français. Cette idée abstraite parce que c'est la Révolution française qui a émancipé le juif, dire qu'un juif est un français, un juif est un citoyen comme les autres, c'est une idée purement abstraite. Regardez les résultats. Le juif domine la République, le juif vous opprime. Ben ça, c'est une idée de 89. Voilà, vous voyez, c'est ça le cheminement et la logique intellectuelle.
Quels sont, à votre avis, Laurent Joly, les éléments qui subsistent encore de l'Action française, dont l'extrême droite française aujourd'hui ? Il y a, vous le disiez, alors c'est purement symbolique, mais l'appropriation de Jeanne d'Arc, ça date aussi de cette époque-là.
Vous avez plein de symboles, effectivement, la réunion, enfin cette commémoration de l'extrême droite. Annuel de Jeanne d'Arc, c'est l'Action française, c'est les Camelots du Roi qui l'ont fait, avec cette idée qu'on retrouve avec le Front National, qui est que c'est un moment de provocation vis-à-vis de la République. Et ça, c'est vraiment le legs. L'idée la plus forte, finalement, que Maurras a imposée et qu'on retrouve dans le discours de l'extrême droite, c'est l'idée qu'il y a un pays égal et un pays réel. Ça, c'est l'idée de Maurras. Les élites n'incarnent pas vraiment le peuple. Le pays légal, c'est pas le pays réel. Ça, c'est Maurras et on le retrouve. Je crois que Le Pen, père et fils, ont repris à leur compte cette expression. Et c'est aussi le conseiller politique de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, c'était aussi une idée qu'il martelait. C'est une idée classique dans l'extrême droite française, mais dont la paternité revient à Maurras. Mais l'idée la plus forte, c'est vraiment cette idée, cette méfiance qu'il y a vis-à-vis des Français qui ne sont pas des Français d'origine. Ça, vraiment... Théorisé d'un point de vue intellectuel par des Zemmour, par des Buisson, ça vient vraiment de Maurras. C'est vraiment le legs intellectuel de Maurras. C'est qu'on peut être un intellectuel et émettre des idées racistes qu'on pourrait qualifier. Maintenant, il y a une légitimité intellectuelle au populisme, au racisme, à la méfiance de l'autre. Et c'est vraiment Maurras qui a fait cette jonction-là entre le monde intellectuel et qui a vraiment donné ses lettres de noblesse intellectuelle aux idées, aux idées populistes avant l'heure, démagogiques, antisémites, racistes, tout ce que vous voulez.
C'est très surprenant aussi, ça, en tout cas sur les droits de l'homme. Vous citiez Zemmour, qui se méfie profondément du droit de l'hommisme. Et en fait, c'est en droite ligne, effectivement.
On retrouve, quand j'ai lu le livre de Zemmour, je retrouvais ces mêmes idées. La gauche, ils ont une vision totalement abstraite. Cette idée que d'un côté, c'est les idées abstraites, intellectuelles, c'est les nuées, ça aussi. Grand mot qui vient de l'Action française, les nuées. Ce sont des idées abstraites. Voilà, et la réalité, le concret, ce serait du côté des patriotes, de la droite. C'est vraiment des choses qui se sont... Et que surtout, là aussi, l'idée qui est... Bon, c'est pas que Maurras, c'est aussi Gramsci, mais c'est l'idée à droite, c'est que le combat, il se fait sur le plan intellectuel. Là aussi, c'est Maurras qui a amené cette idée-là à droite. La base, c'est plutôt une idée de gauche. Mais l'idée que le combat, on est des intellectuels et à droite, on peut le gagner.
Je vous remercie beaucoup, Laurent Joly. Je rappelle donc que votre livre « Naissance de l'action française » est paru aux éditions Grasset. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.